en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
La biodiversité expliquée aux lycéens, c'est le titre de la conférence de Christian Dumas, botaniste et biologiste de l'Académie des sciences, communication réalisée à l'Institut de France lors de la Fête de la Science 2010. Christian Dumas nous offre en une petite heure un vaste panorama de la biodiversité, allant des interactions entre le maïs, la chenille et une espèce de guêpe, vous l'écouterez au cours de son intervention, en passant par la découverte d'une limace de mer fluorescente capable de faire la photosynthèse comme une plante. Il nous donne quelques chiffres clés qui rappellent la fragilité de nos écosystèmes et nous donne à réfléchir sur ce que l'homme peut apporter de positif à la biodiversité. Sans plus tarder, laissons la place à Christian Dumas.
Alors, la biodiversité, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la vie de la planète. Quand je dis tout simplement, c'est un euphémisme, parce que derrière cet euphémisme se cache une très grande complexité, et bien sûr, la difficulté pour moi va être de simplifier cette complexité de manière à la rendre suffisamment compréhensible. On a l'impression, quand on parle de biodiversité, qu'on sait ce que c'est. Cependant, si on cherche sur le dictionnaire, si vous prenez un dictionnaire d'une dizaine d'années en arrière, le mot biodiversité, vous ne le trouverez pas. C'est un néologisme, c'est-à-dire c'est un mot nouveau qui a été créé à partir de l'anglais biodiversity, et les deux racines qui sont juxtaposées, c'est bios, la vie, vous avez biologie, hein, l'étude de la vie, et diversity, diversité. Alors d'où vient cette année 2010, année de la biodiversité ? C'est le secrétaire général des Nations Unies qui avait commandé un rapport sur l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire. C'est le rapport 2005 qui s'appelle Millennium Ecosystem Assessment. Et ce rapport était destiné à faire le point sur les ressources, sur l'érosion de la biodiversité. Et il faisait suite à toute une série de réunions à caractère politico-scientifique qui ont débuté à Stockholm en 72 avec le premier rapport sur l'environnement humain. Ensuite, il y a eu le sommet de la Terre à Rio, puis le sommet de Johannesburg à Johannesburg en Afrique du Sud en 2002. Et qu'est-ce que ce rapport a conclu ? Ce rapport a conclu que malgré les alertes successives des différentes réunions politico-scientifiques, il y avait de manière continue une érosion de la biodiversité. Donc il a été décidé que 2010 serait dédié à la biodiversité de manière, d'une part, à sensibiliser l'opinion, d'autre part, à faire encore, si nécessaire, un point d'étude sur cette biodiversité pour voir à quelle vitesse il y avait encore une érosion et, d'autre part, quel type de recommandations fallait-il mettre en œuvre pour stopper ou limiter les problèmes liés à cette érosion. Alors la première question que l'on peut se poser, c'est, dans le fond, est-ce que la disparition de la biodiversité, son érosion, est-ce que c'est un phénomène nouveau ? Est-ce que c'est une première au cours de l'histoire de la Terre ? Eh bien, la réponse est non. Les études géologiques ont montré qu'il y avait déjà eu 5 extinctions majeures. La plus connue et la plus médiatisée a lieu à moins 65 millions d'années. Elle est connue parce que c'est la période de disparition des dinosaures. Et avec les dinosaures, auraient disparu 80% à peu près des espèces vivantes. Donc 5 extinctions majeures. Et aujourd'hui, sur ce diagramme issu directement du rapport là, du Millennium Ecosystem Assessment, vous avez les fossiles et l'évaluation de la vitesse de disparition des êtres vivants d'après les fossiles. Donc on voit que durant les 65 derniers millions d'années, c'est-à-dire depuis l'époque des dinosaures, on considère qu'il y a la vitesse, c'est une extinction d'espèces par an et par million d'espèces. Au cours, je dirais, de la période actuelle, cette valeur a été augmentée d'un multiple de 50 jusqu'à 500 fois, on va dire. Et les projections, les modélisations pour le 21e siècle, la fin du 21e siècle, montre que cette vitesse va encore doubler, c'est-à-dire qu'on arriverait à des vitesses comprises entre 500 et 1000 extinctions, c'est-à-dire qu'entre le passé lointain et le futur proche, la vitesse serait augmentée de entre 500 et 1000, d'un facteur 500 à 1000, ce qui est absolument considérable, d'où le petit encart que j'ai mis ici et qui est repris par de nombreux scientifiques. Est-ce que nous n'allons pas vers une sixième extinction? Il est clair que la vitesse indique que c'est le cas. Les projections d'après les études actuelles indiqueraient que dès 2050, par exemple, 35% des espèces pourraient avoir disparu. Alors, qu'est-ce que c'est que la biodiversité à ce stade-là? On pourrait faire une intégrale si on voulait, mais je vais simplement dire que c'est la résultante de l'évolution du vivant en fonction du temps. Alors, pour définir la biodiversité, il ne suffit pas, comme on pourrait le croire en tout premier lieu, de faire un inventaire des espèces. Mais il faut avoir une approche globale du vivant, et cette approche des micro-organismes aux animaux en passant par les plantes, avec les trois niveaux que sont les gènes, niveau moléculaire, les espèces pour le niveau des organismes, et les écosystèmes pour le niveau qui concerne les interactions biotiques, c'est-à-dire entre les êtres vivants, et abiotiques, entre les êtres vivants et les paramètres physico-chimiques de l'environnement, c'est-à-dire toutes les interactions confondues. Voilà les trois niveaux de la biodiversité. Je vais les décliner rapidement, sachant que vous avez et vous savez déjà énormément de choses. Alors, le premier niveau, c'est l'ADN. L'ADN, c'est le support de l'information génétique. Vous savez que c'est une macromolécule qui a été découverte et isolée à la fin du 19e siècle, décryptée au niveau chimique au milieu du 20e siècle. La double hélice connue, celle qui est en train de tourner, révélée par Watson et Crick en 1953. Et en 1966, on sait que la fonction de l'ADN, c'est de coder les protéines responsables des grandes fonctions biologiques. Tout ça, c'est sous le contrôle d'un tout petit nombre de lettres, ATGC, acronyme d'un certain nombre de bases, et ces lettres forment le code génétique. Vous savez également qu'il y a deux régions. Il y a les régions qui codent, qu'on appelle les exons, qui renferment les gènes, et les régions qui sont dépourvues de gènes, que l'on appelle les régions non codantes ou introns. Alors, regardez la diversité des espèces. C'est la diversité en fonction de l'abondance. Et ça me permet de préciser combien d'espèces vivent aujourd'hui. On estime aujourd'hui qu'il y a environ 1,7 million d'eucaryotes connus. Alors, juste une petite définition. Les eucaryotes, ce sont les organismes cellulaires possédant un vrai noyau. Et on les oppose aux procaryotes, c'est-à-dire aux bactéries qui, elles, n'ont pas de vrai noyau. Les estimations d'espèces eucaryotes sont comprises entre 2 à 100 millions. Vous voyez qu'on est très très loin d'avoir exploré toute l'organisation et la diversité du monde vivant. On estime qu'il faudrait à peu près 250 années pour les spécialistes, c'est-à-dire les taxonomistes animaux et végétaux, pour répertorier, identifier, classer toute la biosphère, c'est-à-dire l'ensemble de la vie biologique sur la planète. Alors, les insectes, vous avez un magnifique lucane, les insectes représentent jusqu'à pratiquement 50% de la biodiversité connue aujourd'hui. Si on interroge quelqu'un dans la rue pour lui demander finalement qu'est-ce qui est représentatif de la biodiversité et ce que font les médias aujourd'hui, ils vous parlent de l'ours blanc, ils vous parlent du gorille, ils vous parlent des baleines, mais jamais des insectes. Et pourtant, les insectes, ce sont de loin les êtres vivants les plus abondants. Pour la petite histoire, un journaliste américain a interrogé Haldane, qui est un Britannique, un scientifique, un biologiste spécialiste de la biologie des populations du milieu du XXe siècle, et il lui demandait pourquoi Dieu avait-il créé autant d'insectes. Et la réponse d'Aldan, qui était, lui, athée et communiste de surcroît, sa réponse a été Dieu devait bien aimer les coléoptères. Voilà, donc c'était une boutade pour envoyer le journaliste et sa question naïve à ses chères études, on dirait aujourd'hui. L'autre grand groupe qui représente à peu près 20% de la biodiversité connue, répertoriée et classée, ce sont les plantes. Et puis, bien sûr, vous avez tout le reste qui est connu. Alors, aujourd'hui, on découvre chaque année environ, en moyenne, 15 000 espèces. Vous avez là deux espèces, une animale des loricifères, qui sont des animaux que l'on trouve en anoxie, c'est-à-dire dans des milieux sans oxygène, trouvés dans les mers. Il y a eu plusieurs grandes opérations d'identification de la biodiversité marine. Vous avez peut-être entendu parler de l'expédition Tara, soutenue par le CNRS, par exemple. Et puis, en haut, à droite, vous avez un rhododendron qui vient d'être découvert, qui a été découvert en 2009 en Nouvelle-Guinée. Voilà pour le troisième niveau, c'est la diversité des écosystèmes. Un écosystème, c'est un milieu, les êtres vivants qu'il compose et bien sûr toutes les relations entre les êtres vivants et les paramètres physico-chimiques de ce milieu. Alors inutile de vous dire que, vu la complexité et le nombre de paramètres qui existent dans un tel écosystème, on ne sait pas expérimenter sur les écosystèmes. Donc ça veut dire qu'on va spéculer, on va faire de petites expériences, on va modéliser beaucoup et il faudra bien sûr vérifier énormément. Alors je vais vous montrer quelques images qui vont attirer votre attention sur des écosystèmes considérés comme très fragiles. Le premier, c'est un écosystème marin, ce sont les récifs coralliens. On sait aujourd'hui que ces récifs coralliens sont extrêmement en danger. Danger lié à une petite augmentation de la température des océans, d'une part, et d'autre part lié à l'augmentation de la teneur en dioxyde de carbone, il y a une acidification des océans. Ces deux paramètres jouent de façon extrêmement délétère sur l'organisation biologique, la composition biologique de ces récifs. Vous y ajoutez les crèmes solaires, qui sont aussi extrêmement délétères pour les récifs coralliens et qui sont responsables du blanchiment des coraux. Donc on estime que ce sont des systèmes très très fragiles et si on ne fait rien, eh bien d'ici à la fin du siècle, il n'y aura pratiquement plus de récifs coralliens fonctionnels. Sous nos climats, les zones les plus fragiles, sous nos climats et dans nos régions, les zones les plus fragiles sont les zones humides, comme les mares, qu'elles soient permanentes ou temporaires, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait autour de ces zones humides une très grande diversité biologique. Le niveau de protection de ces zones humides est normalement inscrit dans des textes réglementaires à l'échelle européenne, mais les textes sont malheureusement pas énormément suivis d'effet. Alors, dans les régions tropicales, vous avez ici ce qu'on appelle une mangrove. La mangrove, c'est aussi un écosystème très particulier et très fragile. On en a entendu parler lors du tsunami qui a fait un nombre de morts considérable en Asie du Sud-Est il y a quelques années en arrière, parce que ça sert de barrière naturelle où viennent se fracasser les vagues, les tsunamis par exemple. On a, dans beaucoup de régions, supprimé ces mangroves pour faire de la pisciculture, notamment de production de crevettes. Et effectivement, ces arbres, qu'on appelle des palétuviers, ont disparu. Alors pourquoi c'est particulier, ces écosystèmes? Là, vous avez un milieu marin, à la limite de balancement des marées. Et vous avez très souvent un milieu vaseux. C'est-à-dire que les racines plongent dans un milieu pratiquement dépourvu d'oxygène. Donc les plantes, pour s'adapter, vous voyez, on a l'impression qu'elles sont montées sur échasse, vous avez des racines avec des petits orifices qui permettent les échanges gazeux et qui permettent à ces plantes de fonctionner. Ça, c'est une première particularité. La deuxième, c'est leur mode de reproduction. Ce sont des rares exemples chez les plantes à fleurs de plantes vivipares c'est-à-dire la fécondation a lieu dans la fleur, bien sûr, mais vous avez la graine formée qui germe, et vous voyez qu'on a l'impression que c'est comme une lance. Lorsque la germination est suffisamment avancée, ça se détache du palétuvier, ça tombe, et comme c'est une lance, ça se fiche dans la vase, et ça reste comme ça, mécanisme adaptatif qui permet finalement à cette germination de pouvoir fonctionner avec, bien sûr, tout de suite la photosynthèse qui se met en route sans être gênée par des problèmes d'anoxie liés à la vase. Autre exemple, tout ça pour vous montrer des écosystèmes de plus en plus particuliers. Là, vous avez un tronc d'arbre coupé avec des petits trous dans lesquels se nichent des insectes xylophages, c'est-à-dire qui mangent le bois. Et devant, vous avez une fourmilière. Donc voilà des exemples d'écosystèmes particuliers. Et encore plus particuliers, voilà des bactéries intestinales que nous avons dans notre intestin, vues au microscope électronique à balayage. Alors il faut savoir que ces bactéries, c'est tout à fait étonnant parce qu'on imaginait qu'il y en avait énormément. Et en pratique, une étude relativement récente de métagénomique, c'est-à-dire qu'on analyse globalement tous les gènes d'une population sans distinction, on s'est aperçu en analysant les fécès de 124 individus qu'il n'y avait que 3,3 millions de gènes différents, ce qui est assez peu, compte tenu qu'une seule bactérie en contient environ 3000. Ceci a permis d'estimer environ 1000 le nombre d'espèces bactériennes différentes. Alors si vous mettez 1000 espèces à répartir entre 6 milliards d'êtres humains, ça signifie beaucoup d'espèces communes entre les individus. Mais il y a une étude tout à fait récente qui a été faite par des collègues du CNRS de Roscoff, la station de biologie marine, et j'ai mis « Pourquoi les Japonais digèrent bien les sushis ?» Et que montre cette étude ? Ils ont analysé les bactéries intestinales d'un échantillon de Japonais et d'un échantillon, c'est comme ça qu'on parle, hein, d'un échantillon d'une population nord-américaine. Et qu'ont-ils observé ? Ils ont observé que chez les Japonais, il y avait des gènes qui codent pour une enzyme bactérienne qui détruit, qui digère la paroi des algues rouges. Et vous savez que les algues interviennent énormément dans les populations, dans la nourriture des populations japonaises. Ces gènes n'existent pas, bien sûr, dans les bactéries des populations nord-américaines. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que depuis que l'homme existe, c'est-à-dire il y a très peu de temps sur la Terre, eh bien, il y a eu un transfert horizontal de gènes entre des bactéries marines issues des algues, donc qui vivent avec les algues, directement chez l'homme, dans les bactéries intestinales. Alors peut-être ça vous surprend, mais il faut savoir que notre poids comprend 3% à peu près de bactéries. Hein. On pèse 3% de bactéries, on en a de partout. Et bien sûr, celles qui sont dans l'intestin ont un double rôle, à la fois digestif, mais aussi un rôle de protection. Alors, j'ai insisté sur la notion d'abondance, la notion de diversité des espèces, ce qui implique des méthodes d'observation et de description, et bien sûr, ce qu'on appelle une dénomination universelle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette dénomination universelle ? Je vous ai illustré ça par quatre roses. Vous avez le rosier des chiens, l'églantier, la rose de Chine, ce qu'on appelle l'hibiscus, la rose de porcelaine, qu'on trouve par exemple à l'île de la Réunion, et puis les élébores, les roses de Noël. Sous ce vocable de rose, vous avez des choses tout à fait différentes. Il y a une grande confusion de terminologie avec tous ces noms communs, on dit encore des noms vernaculaires. Donc un grand biologiste du XVIIIe siècle, la fin du XVIe, début du XVIIIe, qui est Carl Linné, a défini des règles de dénomination dans un ouvrage qui est le Species Plantarum de 1753. On a fêté le bicentenaire de sa naissance il y a très peu de temps, comme vous le voyez. Et qu'est-ce qu'il a fait, Linné ? À la place de tout un texte descriptif pour les différentes espèces, il a dit on va définir une plante, mais c'est vrai pour les animaux aussi, par un nom générique suivi d'un nom spécifique. Autrement dit, deux noms à coller qui vont préciser exactement la dénomination des espèces. Et si je vous indique ça, ce n'est pas pour le plaisir, c'est simplement pour vous montrer que ce que vous voyez dans les jardins botaniques ou dans les jardins zoologiques et dans les publications scientifiques, c'est toujours en vigueur. Quand on parle d'une espèce, on dit, par exemple ici, Rosa canina, suivi d'une abréviation, par exemple le L ici, c'est pour Linné qui a été le premier descripteur complet de cette espèce. Et si vous regardez les familles en noir, vous voyez que ce qui est rose, ce qui était appelé rose, eh bien ça appartient à des familles extrêmement différentes. Alors pour la petite histoire, Linné, 1707-1778, lorsqu'il est à sa naissance, on connaissait environ 6000 espèces, à sa mort 9000, et en 2009, plus de 300 000 pour les plantes à fleurs. Quand on est scientifique, comme moi, j'ai eu cette chance, et si un jour vous voulez faire ce métier, sachez que c'est le métier, quelle que soit la discipline de ce métier, que vous fassiez des mathématiques ou de la biologie comme moi, c'est le métier qui vous fait voyager le plus au monde avec le métier de grand reporter. C'est-à-dire que vous avez, au bout de quelques années, tout un réseau de collègues dans le monde entier avec lesquels vous échangez, vous collaborez, et finalement vous arrivez à avoir comme ça un vrai réseau d'amitié scientifique dans le monde entier. Alors ça m'a amené, par exemple ici, en Afrique du Sud, il y a quelques années, vous avez des plantes extraordinaires qu'on appelle lithops, ça veut dire plantes cailloux. Ça ressemble, vous voyez, à des cailloux. Quand on ne les connaît pas, on passe à côté sans les voir. Là, on les voit parce qu'elles sont en fleurs, mais autrement, on ne les voit quasiment pas. Toujours dans les choses assez extraordinaires, il faut un petit peu vous faire rêver, voilà des photos que j'ai prises en Australie. En Australie, vous avez ce qu'on appelle les fire trees, c'est-à-dire les arbres à feu. Ce sont des arbres qui sont complètement adaptés au passage du feu, ce qui se passe lorsque les incendies qui sont fréquents dans la période sèche passe, il passe très très vite, en quelques minutes. Il faut que le feu passe pour faire éclater le fruit. En éclatant, la graine qui est à l'intérieur est toute prête et il va falloir attendre, et quelquefois plusieurs années, que des pluies lessivent ces arbustes. La pluie, ça va modifier l'hygrométrie des parois et ça va entraîner la sortie des graines. Donc les graines vont tomber au sol au moment où il va pleuvoir, c'est-à-dire dans des conditions favorables. Les pluies vont lessiver les produits de combustion, et on sait aujourd'hui, ça a été analysé et publié il y a très peu de temps, que dans les produits de combustion, vous avez une substance qui correspond finalement à une hormone favorisant la germination. Donc vous voyez, un mécanisme adaptatif, d'où la terminologie fire tree. Il faut 4 minutes à 400 degrés pour faire éclater ces fruits qui sont très très durs. Hein. Vous ne pouvez pas les casser, il faut un marteau si vous voulez les casser. Autre petite chose originale, c'est ce que vous trouvez dans les forêts tropicales, ce sont les fleurs qui poussent directement sur les troncs ou sur les rameaux, pas comme chez nous. Par exemple ici, c'est chez l'ébénier, hein, le bois d'ébène, vous savez, très noir au centre. Le seul exemple connu, c'est ce qu'on appelle l'arbre de Judée, hein, que certains d'entre vous connaissent peut-être, où vous avez ce genre de phénomène de formation des fleurs sur les rameaux. Alors maintenant, deux exemples pour vous montrer le record, toute catégorie des fleurs. Ce sont des fleurs de plantes hémiparasites que l'on trouve en Asie du Sud-Est. Et puis, à contrario, vous avez des fleurs de saule. Là, c'est une inflorescence, c'est un chaton. Donc, vous avez énormément de fleurs. Ou une fleur de graminée, comme une fleur d'avoine. Donc tout ça vous montre qu'il y a une très très grande diversité. Un dernier point concerne ce qu'on appelle l'endémisme et les points chauds de la biodiversité. Dans le monde, ce sont des zones où il n'y a pas eu de glaciation et qu'on trouve essentiellement entre les tropiques. Et on note l'existence d'espèces ou de genres uniques, d'où le terme d'endémisme, ça n'existe que là. Et vous voyez les taux, les pourcentages d'endémicité, ils sont en relation avec Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, les îles Juan Fernandez à l'ouest du Chili, c'est les îles Robinson Crusoe, Hawaï, Fidji, etc. Il manque la Réunion là-dessus, mais il y a un pourcentage de très fort d'endémicité.
Vous voyez également que la France est responsable par ses départements et territoires d'outre-mer de 20% de la biodiversité planétaire. Et en particulier, biodiversité outre les points chauds, il y a 4 points chauds sur les 7 répertoriés qui relèvent de notre pays. Et également, vous avez une biodiversité marine très très importante puisque ce sont des îles et très souvent il y a une relation entre îles et biodiversité. Là, vous avez des fougères arborescentes. C'est une photo que j'ai prise à La Réunion il y a quelques années en arrière, où on est allé faire un peu de diversification, recherche de nouvelles espèces. C'est ce qu'on appelle des ciates ou le fangeant réunionnais. Là, c'est toujours à La Réunion. C'est ce qu'on appelle le bois corail. Alors regardez, vous avez les feuilles là. Et là, c'est l'inflorescence. Et tout à fait au sommet ici, donc légèrement violacée, vous avez une fleur. Et effectivement, ça ressemble un petit peu à des coraux, d'où ce nom. Ce sont bien sûr des choses assez extraordinaires que l'on rencontre. Alors, une autre, à l'occasion d'un voyage en Nouvelle-Calédonie, pour aller chercher cette plante, qui est l'Emborella trichopoda. Vous oubliez son nom, mais sachez qu'en Nouvelle-Calédonie, vous avez l'ancêtre, c'est-à-dire la plante à fleurs la plus primitive au monde connue. Et on considère que cette plante à fleurs est la sœur de toutes les plantes à fleurs actuelles par des études à la fois morphologiques, anatomiques et moléculaires. Alors, dernier point sur cette diversité. La biodiversité masque en fait une grande unité de développement. Alors je vais vous illustrer ça par une petite histoire qui est la suivante. Regardez ici des roses. Vous avez la rose qui est l'églantine, vous avez 5 pétales, puis vous avez les étamines. Vous avez la variété officinale qui a 2 fois plus de pétales, elle en a 10. Donc c'est un mutant naturel qui a été sélectionné par l'homme. Et puis vous avez ce qu'on appelle les roses paumées, où vous avez jusqu'à 100 de pétales. Donc vous avez, au cours de la formation de mutants, et ces mutants ont été sélectionnés par l'homme, d'où la domestication de la rose, mais je vous parle de la rose, je pourrais vous parler du chat, la domestication du chat, du chien, etc. On aura exactement la même chose à partir d'un ancêtre loup. On a une très grande diversité de chiens. Prenez un basset, et un bulldog et un chien Saint-Bernard, ça ne se ressemble pas et pourtant l'ancêtre est le même. Eh bien, c'est l'homme qui a domestiqué tout ça et en domestiquant tout ça, il y a Von Goethe, donc c'est le poète et philosophe, c'est l'auteur des souffrances du jeune Werther ou de Faust, que vous connaissez, très grand homme, que j'admire énormément, puisqu'il a fait une théorie physique sur les couleurs, et il a eu l'idée géniale, puisque c'était un excellent botaniste, qui s'est nourri du traité de philosophie botanique de Linné, dont je viens de parler. Donc dans la trilogie « Le botaniste, le poète et le généticien », le botaniste, c'est Linné. Le poète, c'est Goethe. Et Goethe, qui était à la cour du duc de Weimar dans les années 74, a fait de remarquables observations sur la rose sans feuilles, le rosier sans feuilles, sans du nombre de 100. Hein. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il y avait une espèce de transformation des organes d'un type en organes d'un autre type. Par exemple, un pétale qui se transforme en étamine ou réciproquement. Et vous retrouvez, à travers cette observation, ce que je vous ai montré chez la rose avant. Et c'est quelqu'un de prodigieusement intelligent, puisqu'il avait, à partir de ses observations, élaboré une théorie où il recherchait une unité à la fois du monde végétal et du monde animal. Il avait fait la même observation, par exemple, chez le ténia, où vous avez des anneaux successifs, et puis une tête, c'est-à-dire vous avez une répétition d'organes. Eh bien, sa théorie, qu'il a appelée la métamorphose des plantes, qu'il a publiée en 1790, a été démontrée 2 siècles plus tard, c'est-à-dire maintenant, par 2 équipes, une américaine et une française, sur l'action combinée de gènes d'identité d'organes. Et Goethe avait eu l'intelligence d'observer des mutants naturels, ce qui était prodigieux comme méthode d'analyse au XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en biologie du développement? On analyse des mutants. Donc regardez ici, vous avez une fleur qui sert de modèle en génétique végétale, qui est l'arabette des dames, ou Arabidopsis. Donc vous avez une fleur avec 4 pétales blancs, ici 4 sépales, 6 étamines, et au centre vous avez les organes femelles, les carpelles, voilà la modélisation. Eh bien, on fabrique des mutants, et le premier type de mutant, vous avez une formule florale sur le sauvage, sépale, pétale, étamine, carpelle. Chez le mutant, vous avez carpelle, étamine, carpelle, c'est disparition des sépales et des pétales, c'est-à-dire que vous avez la transformation des sépales et des pétales en d'autres organes. Une autre mutation, vous avez sépale, sépale, carpelle, carpelle, le mutant qu'on a appelé pistillata. Une autre, sépale, sépale, pétale, etc. C'est le mutant agamous, A privative gamète, sans gamète, donc vous n'avez plus que des pétales et des sépales. Et les gènes responsables de ces mutations sont les mêmes que les gènes qui transforment une patte en une antenne, par exemple chez la drosophile, et qui ont valu un prix Nobel il y a quelques années en arrière. On les a appelés des gènes homéotiques. Ce sont des gènes qui contrôlent ce qu'on appelle les gènes architectes chez les plantes, ceux responsables, enfin, chez les plantes et chez les animaux, et chez nous, bien sûr, responsables de l'identité des organes. Alors voilà la théorie. Finalement, il y a toutes les fleurs, en termes de développement, s'apparentent à un modèle qu'on appelle ABC. Pour fabriquer un pétale, il faut les gènes qui codent pour la fonction A. Pour le pétale, il faut les gènes A plus B. Pour les étamines, B plus C. Et pour les carpelles, C seul. A et C étant antinomiques. Eh bien, ce modèle ABC s'applique aux 300 000 espèces de plantes à fleurs, aussi différentes les unes que les autres que j'ai pu vous montrer précédemment. Et vous avez une réflexion tout à fait analogue que vous pouvez translater chez les animaux et chez l'homme, bien sûr. Alors, vous avez tous entendu parler d'espèces en danger. Il y a une liste rouge des espèces en danger qui a été établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Une espèce emblématique est le sabot de Vénus, qui est une magnifique orchidée qu'on trouve chez nous. Mais vous avez également des espèces qui ont été introduites, qui n'existent pas normalement dans notre flore, qu'on appelle, lorsqu'elles deviennent envahissantes, des pestes, aussi bien végétales qu'animales. En France, vous avez la renouée, l'ambroisie, le buddleia, ce qu'on appelle le lilas d'Espagne, qu'un certain nombre cultivent dans les jardins. Toutes ces pestes végétales, on considère, végétales et animales, on considère que c'est la deuxième cause de disparition de la biodiversité après l'impact de l'homme. Et toutes ces introductions, bien sûr, sont généralement liées à l'homme. Regardez les lantanas qu'on cultive dans nos jardins, sans problème. Eh bien, ces lantanas sont des pestes à la Réunion. Même chose pour les petits Mimosa pudica. Autrement dit, ce qui est, si vous introduisez 100 espèces à peu près, il y en a 90 qui ne tiennent pas le coup, qui vont disparaître. Il y en a 9 qui vont s'acclimater et elles vont persister sans faire de dégâts apparents. Et vous avez 1% sur 100, bien sûr 1%, d'espèces qui vont devenir des pestes, c'est-à-dire des espèces envahissantes qui vont provoquer une réduction de la biodiversité. Alors, rappelez-vous le schéma où il y avait un gros lucane. Je vous ai dit, les insectes, c'est 50% de l'abondance de la biodiversité apparente, sachant que, bien sûr, l'essentiel de la biodiversité, vous l'avez dans les sols, on ne le voit pas, dans les eaux, dans les océans. Et toujours dans la biodiversité apparente, il y a à peu près 20% des plantes. Donc j'ai choisi pour les interactions de prendre des interactions entre plantes et insectes. Alors je vais vous donner un exemple. Pourquoi des plantes ou des animaux deviennent-ils des pestes? Vous avez cette plante qui est l'herbe de Jacobé, Sensio jacobea. Donc c'est une plante à fleurs jaunes. Cette plante a été introduite de manière tout à fait inhabituelle, par inadvertance, aux États-Unis. Et très rapidement, elle est devenue envahissante. Et dans certains États, comme par exemple dans l'Oregon, en 1976, on a estimé qu'il y avait 12 000 km² qui étaient envahis par cette herbe de Jacobé. Pour pallier cet envahissement, on a introduit un insecte qu'on appelle la goutte de sang, qui est Thieria jacobea, qui est ici, dont la larve mange la plante. Hein. Broute, c'est une. À peu près 50% des insectes sont des herbivores. Donc ici, la plante est complètement défeuillée sous l'action de ces chenilles. Il faut savoir que dans cette espèce, vous avez des alcaloïdes, autrement dit, vous avez des poisons. Ce qui explique qu'il faut un insecte herbivore adapté à manger des alcaloïdes. Et cet insecte séquestre ces alcaloïdes dans des structures spéciales au niveau des cellules. Et la couleur rouge agit un petit peu comme des warnings qui, entre guillemets, préviendraient les oiseaux, notamment qui mangent les insectes, de façon à ce que les oiseaux ne périssent pas empoisonnés. Là, vous avez un exemple où on sait que finalement, une espèce devient invasive parce qu'il manque son prédateur. Alors, ça peut être son prédateur, ça peut être son pathogène, ça peut être plein de choses, mais on ne peut répondre qu'au cas par cas et en règle générale, on ne sait pas trop pourquoi une espèce devient envahissante. Alors, deuxième cas d'interaction entre plantes et insectes, j'ai choisi l'histoire du sphinx de Darwin. On a beaucoup parlé de Darwin l'an passé, il y a 2 ans. Vous avez Darwin qui a fait le tour du globe sur le Beagle, vous savez, à l'âge de 21 ans, et il s'est arrêté à Madagascar dans une escale et il a observé cette magnifique orchidée. Donc vous avez la corolle de l'orchidée et vous avez un éperon très très long et à l'extrémité de cet éperon, vous avez le nectar qui se trouve là. Et Darwin avait fait cette observation et en 1862, c'est-à-dire pratiquement 25 ans après, lorsqu'il a fait des études sur les orchidées une fois qu'il est revenu en Angleterre, il en a déduit que pour être pollinisé, la pollinisation étant obligatoire chez cette orchidée, eh bien, il fallait un insecte qui ait une trompe suffisamment longue, au moins de 30 à 35 cm de long, capable d'aller prélever le nectar et d'assurer la pollinisation de cette orchidée. Eh bien, c'est en 1903, vous voyez, pratiquement 70 ans après, qu'un entomologiste a découvert un sphinx, un papillon, dont la trompe effectivement fait 35 cm de long et est capable de prélever le nectar à son extrémité. Donc ça valide les observations, bien sûr, de Darwin. Là, je vais vous raconter une autre histoire. Alors là, vous avez un pied de maïs en vert. Vous avez un papillon qui vient pondre sur le maïs. Des œufs de sa ponte sortent des chenilles. Les chenilles sont herbivores et vont commencer à brouter les feuilles de maïs. Sous l'action mécanique du broutage, eh bien, un bouquet de molécules parfumées, un petit peu comme les parfums que vous avez lorsque vous respirez de la lavande ou du thym ou dans un bois de pin, un bouquet de molécules parfumées va être émis, ce qui va constituer le signal. Et dans ce bouquet de molécules parfumées, essentiellement des composés qu'on appelle des terpènes en chimie, vous allez avoir une guêpe qui va être attirée par ce signal et la guêpe va venir pondre dans la chenille. Voilà le résultat, voilà la chenille, voilà ce qui se passe et voilà les œufs qui ont éclos. Donc vous imaginez les larves à l'intérieur que l'on appelle des parasitoïdes chez cette chenille qui est une chenille de la pyrale. Mais là où c'est vraiment extraordinaire, c'est qu'on a identifié la molécule qui est responsable de tout ça. Et là où c'est vraiment extraordinaire, vous voyez que c'est une molécule compliquée, mais ce qui est important, c'est les couleurs. Vous avez une partie de la molécule qui est verte, elle a pour origine des acides gras de la membrane plasmique de la cellule végétale, et une partie rouge qui est un acide organique de la salive de la chenille. Et la salive de la chenille raboute ces deux molécules d'origine différente et aboutissent à la création d'une molécule hybride, animale et végétale. Et c'est cette molécule hybride qui est responsable de l'émission du bouquet de parfum qui va attirer la guêpe et qui va tuer la chenille. Donc vous voyez un mécanisme extrêmement fin, extrêmement subtil. On a fait d'autres choses depuis, hein. Mais j'entends, on a identifié le récepteur, par exemple, on sait où il est, etc. Mais là où c'est tout à fait intéressant, c'est que en termes de lutte biologique, compte tenu de la finesse de mécanismes comme ça, vous voyez qu'il faut bien connaître les choses avant de proposer des solutions, sinon on peut avoir des catastrophes. Alors, Je vous ai donné trois exemples, le sénson et l'insecte, peste végétale, le sphinx de Darwin, un pollinisateur, la trilogie maïs-papillon-guêpe, un exemple de parasitisme. Et il se trouve que ces interactions se transmettent de génération en génération. Donc la question, y a-t-il une mémoire ? Alors qu'est-ce que c'est que la mémoire ? Eh bien, vous avez la mémoire liée à l'apprentissage. Chez nous, c'est le langage. Chez les oiseaux, c'est le chant. Vous avez la mémoire immunitaire, celle qui est portée par les lymphocytes, certains lymphocytes. Lorsque un antigène est en contact avec une certaine classe de globules blancs ou lymphocytes. Et puis, vous avez une mémoire qui est la mémoire évolutive, c'est celle dont je vais parler. Alors, qui dit mémoire évolutive fait penser à des caractères héréditaires, fait penser à l'ADN dont j'ai parlé tout à l'heure. Et bien sûr, la première question que l'on peut se poser, c'est est-ce que la mémoire est liée à la quantité d'ADN par cellule ? Alors, vous avez ici virus, un champignon, une levure, la fameuse arabette dont j'ai parlé, l'homme, le maïs, du lys, un triton et une fritillaire pintade qui est ici. Eh bien, vous voyez que l'ADN exprimé en picogrammes par noyau haploïde, c'est-à-dire à N chromosomes, pour comparer des choses comparables, vous voyez que l'homme, il a moins d'ADN que le triton, par exemple, ou que la fritillaire, un petit peu plus que la levure du boulanger. Alors, on se dit, finalement, c'est pas ça. La réponse n'est pas là, puisque nous sommes, on s'estime largement au sommet de l'évolution. Vous savez qu'il y a dans l'ADN, il y a des zones qui codent et des zones qui ne codent pas. Donc, on se dit, dans le fond, c'est peut-être les gènes et non pas l'ADN dans sa globalité qui est responsable. Alors, est-ce que la mémoire est liée au nombre de gènes ? Depuis la fin des années 90 et surtout depuis 2000, on a séquencé énormément de génomes. Alors vous avez la levure, un champignon, 5500 gènes, l'abeille, 10 000, la mouche du vinaigre, c'est les petites mouches à fruits, un ver, oui, voilà l'homme, 21 000 gènes, il a moins de gènes que la rabette, que la vigne, que le maïs. La paramécie, vous savez ce que c'est la paramécie ? C'est un unicellulaire cilié, l'homme a moins de gènes qu'une paramécie, qu'une luzerne, qu'un peuplier. Alors ça nous ramène, quand on regarde ce tableau, à une certaine forme d'humilité. Et ça me fait penser à un article de Science, la revue américaine prestigieuse, en l'an 2000, qui titrait sur sa couverture « Pourquoi l'homme a-t-il si peu de gènes ?» Eh bien, ça veut dire que le nombre de gènes n'est pas corrélé à la question posée, qui est la mémoire évolutive. Alors pourquoi ça ? Je vous donne la réponse, parce qu'en fait, à partir d'un gène, ce qui est important, ce n'est pas les gènes, ce sont les protéines, celles qui sont en bout de course, qui, elles, sont responsables des fonctions. Eh bien, un gène peut être responsable de plusieurs protéines par des mécanismes que vous apprendrez ultérieurement, si ce n'est déjà en cours. Un seul exemple pour le système immunologique. Chaque fois que vous avez des antigènes, des corps étrangers qui arrivent au contact de vos globules blancs, de vos lymphocytes, vous avez fabrication d'anticorps. Eh bien, il y a ce qu'on appelle un répertoire quasiment infini d'anticorps possibles parce que vous avez un répertoire infini d'antigènes possibles. Et infini, par rapport à un nombre fini, est quelque chose qui ne va pas. Eh bien, la différence entre les deux, c'est effectivement qu'un gène est capable, par modification, par recombinaison, de fabriquer tout un répertoire de nouveaux gènes. Alors, voilà la Terre. On estime son âge à 4,5 milliards d'années. L'apparition de la vie sur Terre, on la situe à 3,8 milliards avec LUCA. LUCA, c'est un acronyme pour Last Universal Common Ancestor, c'est-à-dire l'organisme, l'ancêtre le plus primitif de la vie, qui aurait donné des bactéries, deux catégories, les bactéries et les archébactéries. Et vous avez les premiers eucaryotes à 2 milliards d'années, c'est-à-dire avec des noyaux limités par une vraie membrane. L'apparition des animaux et des végétaux, on chiffre ça à 1,6 milliard d'années. Alors il y a quelque chose qui vient d'être découvert au Gabon, un fossile, qui semble pluricellulaire et qui serait de 2,1 milliards années, puisque c'est un fossile, on peut le dater précisément, donc ça a été publié cette année, mais on ne sait pas si vraiment c'est un pluricellulaire ou si c'est la juxtaposition d'unicellulaires. Et on ne sait pas s'il a eu des descendants. Donc, pour le moment, toutes ces datations sont basées sur un synchronisme entre une datation fossilifère géologique vraie et ce qu'on appelle l'horloge biologique, qui est une datation approximative. Alors voilà les animaux et les végétaux, donc 1,6 milliard d'années, avec la diversité biologique, la biodiversité qui se met en place. Regardez ici une algue verte, une petite algue qui est mobile grâce à des flagelles. On a séquencé son génome en 2007 et on voit qu'il y a une partie des gènes qui sont des gènes verts, communs avec les plantes, et une partie des gènes qui sont rouges, communs avec l'homme, notamment grâce à son flagelle. Autrement dit, le fait que vous ayez des gènes de plantes chez des animaux, ou des gènes d'animaux chez les plantes, ou des gènes de bactéries chez les animaux, etc., tout ça, c'est quelque chose qui se fait naturellement au cours de l'évolution et de la construction, finalement, des êtres vivants. Donc, je répète, la biodiversité, c'est l'évolution en fonction du temps. Alors, il y a un grand biologiste qui a dit « Rien en biologie n'a de sens, sauf à la lumière de l'évolution ». Le transfert horizontal de gènes est-il possible? Je vous en ai montré plusieurs exemples, y compris les bactéries des sushis, hein, des Japonais. Vous avez un exemple quand même que je veux vous montrer, quelque chose de tout à fait étonnant. C'est cette limace qui a été découverte, vous voyez, c'est une publication de 2008, qui a été découverte, une limace marine. Et chose étonnante, elle est très fluorescente et verte. Et l'analyse de cette limace a montré qu'elle pouvait faire la photosynthèse. Alors vous vous rendez compte, un animal qui fait de la photosynthèse. Alors vous allez me dire, bon, il y a des choses qui sont capables de faire la photosynthèse. Les lichens, par exemple, l'association symbiotique, où vous avez des champignons qui ont séquestré des algues et qui sont capables de faire la photosynthèse. Mais là, en l'occurrence, c'est beaucoup plus subtil. Ce sont des gènes d'algues, des gènes qui ont été intégrés dans le noyau des cellules de cette limace. Et cette limace est donc capable de faire la photosynthèse de la même manière qu'une plante, puisque vous savez que peut-être que pour faire la photosynthèse, c'est un mécanisme compliqué où vous avez des gènes nucléaires et des gènes cytoplasmiques qui interviennent. Alors, une question, l'homme, et l'homme dans tout ça. Bien sûr, on dit l'homme, il détruit. Mais je vais vous montrer que l'homme n'est pas uniquement destructeur de la biodiversité en vous parlant de cet homme qui est Vavilov. Vavilov, c'est un Russe qui, à l'époque soviétique, a essayé d'identifier sur la planète les centres d'origine de domestication des plantes cultivées. Alors, on nourrit 60%, par exemple, de la nourriture humaine, ces trois plantes, blé, riz, maïs. Vous voyez, il reste 40%. Vous rajoutez 10% pour la pomme de terre, 5% pour le sorgho. Vous voyez, on nourrit presque la planète avec très peu de choses. On estime qu'en gros, une centaine d'espèces végétales sont la base de l'alimentation mondiale humaine et animale. Sans plantes, il n'y a rien. La vie sur Terre s'arrête. Eh bien, il a identifié, par exemple ici, l'aire d'origine maïs, courge, haricots. Et je vais vous dire un tout petit mot de ça. L'origine botanique du maïs, bon, c'est les travaux de Biddle, le Biddle du un gène, un enzyme, qui a eu un prix Nobel pour cette découverte, a travaillé au début de sa carrière sur le maïs. Et il a émis l'hypothèse que c'était cette plante, qui ne ressemble pas du tout au maïs, qui était l'ancêtre botanique du maïs. Donc ils ont le même caryotype, le même nombre de chromosomes, ça se croise. Il a fait des analyses mendéliennes et il est arrivé à l'idée qu'il y avait 5 gènes qui étaient responsables, donc 5 mutations sur ces gènes, responsables du changement de cette théosinte dont vous avez ici la fruit en maïs ici. Les petits maïs ici, au début du XXe siècle, c'était 1 tonne à l'hectare, voire moins. Aujourd'hui, les maïs modernes, en moyenne, c'est 100 tonnes à l'hectare. Alors, juste 2 exemples. Voilà le théosinte. Vous voyez, ça ne ressemble pas, a priori, à un maïs tel que vous le connaissez. Voilà le portrait robot d'un maïs tel que vous le connaissez. Eh bien, une seule mutation fait passer ce théosinte en maïs avec une seule tige. C'est un travail qui a été publié il y a peu de temps. Parmi les 5 mutations, vous en avez qui modifient les grains. Alors là, ce sont des noyaux très durs, hein, ligneux, qui se dissocient. Eh bien, il y a plusieurs mutations. Une qui transforme tout ça en fruits qui restent attachés les uns aux autres. C'est pour ça que l'homme les a sélectionnés et qu'il est devenu agriculteur. Et l'autre chose, c'est le nombre de grains par pied, où vous avez ici, chez les maïs modernes, jusqu'à 300 grains. Vous voyez, ce sont des références tout à fait récentes qui ont décrypté ces mutations. Autrement dit, on cherche les moteurs responsables de ces mutations. Il y a des gènes mobiles, hein, vous voyez ces petits grains de maïs colorés. Ces gènes mobiles, on les appelle des transposons, et la transposition, c'est le mécanisme qui est à l'origine de la variabilité génétique. Ça a été découvert par Barbara McClintock, qui a eu son prix Nobel en 1983. Et par ce mécanisme, on peut même créer de nouveaux gènes in vivo. C'est-à-dire l'organisme crée lui-même de nouveaux gènes. Alors, les conclusions issues de ce petit travail de génétique rapide, les caractères du maïs ont évolué durant sa domestication. Je pourrais faire le même raisonnement, je l'ai fait du reste rapidement avec la rose, mais avec le chien, avec le chat, avec les bovins, etc. Des mutations peuvent générer de nouvelles espèces. Le génome interagit avec l'environnement. Bon, ça, c'est un peu plus compliqué, je ne vous en parle pas. Ça veut dire que le génome est continuellement modifié. Alors, les maïs modernes sont-ils naturels ? La réponse est non. Ils ont été créés, au sens vraiment de création, par l'homme versus domestiqués. L'homme est aussi créateur de biodiversité. La seule chose par rapport à l'évolution, c'est que la domestication accélère le paramètre temps. Le temps, la durée, est effectivement un paramètre extrêmement important. Je pense que vous avez saisi. Alors, j'arrive à la fin. Conservation de la biodiversité, activité humaine. Depuis la publication de l'origine des espèces par Darwin, il y a 150 ans, la population humaine a été multipliée par 7. L'énergie utilisée par personne a été multipliée par 7. L'empreinte de l'homme sur l'environnement a été multipliée par 50. Et voilà quelques exemples de ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire les bénéfices que l'homme tire des écosystèmes. Alors, c'est un concept qui date d'une vingtaine d'années et qui a permis à des économistes de faire des extrapolations sur l'apport de ces services à l'homme. On estime qu'il se chiffrerait à 40 000 milliards d'euros en 2050, soit 6 à 7% du produit intérieur brut mondial. Alors, quelques exemples. L'abeille, tout le monde sait que la pollinisation par les abeilles, c'est très important, on n'arrête pas d'en parler. Elle a été évaluée à 153 milliards d'euros en 2005 pour les cultures. S'il n'y a pas pollinisation, il n'y a pas formation de graines, de fruits, etc. Il y a 50% des médicaments issus des êtres vivants et la moitié sont d'origine végétale. Et je vais vous raconter, alors bien sûr, il y a le sol, hein, le sol très très important. Il y a une biodiversité tout à fait importante et relativement peu connue. Si vous lessivez ou si vous dégradez les sols, bien sûr, vous perdez tout ce qu'il y a dessus. Alors, je vais vous raconter cette petite histoire-là. Vous voyez, il y a un troupeau. Et puis, vous avez peut-être vu dans des pâturages des touffes d'herbe qui sont très vertes et que les bovins ne mangent pas. C'est ce qu'on appelle le refus. Et si les bovins sont obligés de manger ces touffes d'herbe, eh bien, ils prennent une maladie qu'on appelle la tétanie d'herbage, dont ils meurent. C'est une maladie neuromusculaire liée aux déjections des bovins. Et les déjections sont riches en azote. Ce n'est pas l'odeur qui empêche les bovins de manger l'herbe, c'est simplement la croissance tout à fait anormale des plantes donnant ces touffes vertes. Et vous savez par ailleurs que le capitaine Cook, je passe du coq à l'âne, mais le capitaine Cook a découvert l'Australie. Et l'Australie, on y a envoyé des bagnards, puis après on y a envoyé des colons. Les colons ont amené des bovins. Les bovins ont fait des bouses, et des bouses en millions de tonnes. Et au bout de quelques années, dans les années 70, on s'est aperçu qu'il y avait une surface de pâturage grande comme l'île de France qui était inapte au pâturage par les bovins suite aux déjections, aux bouses de bovins. Et pour pallier ce problème qui allait en augmentant, eh bien on a introduit des bousiers. Vous savez, ces petits insectes qui roulent les bouses, qui triturent les bouses. Eh bien, grâce à ça, on a pu corriger le phénomène observé. On a introduit des bousiers d'Europe méditerranéenne et d'Afrique du Sud en Australie pour corriger ce phénomène. Tout ça pour vous montrer, à travers quelques petites histoires, tout le lien qu'il y a dans la biodiversité. Alors, bien sûr, dans le Millennium Ecosystem Assessment, ce rapport par lequel j'ai commencé cette petite introduction, les experts parlent aussi du rôle culturel, spirituel, éducation, etc. Outre, bien sûr, les choses les plus évidentes qui concernent la nourriture, la filtration des eaux par la végétation, la production de bois, de fuel, d'énergie, etc. On dit qu'il faut gérer la nature. Quand on dit gérer la nature, c'est ce qu'on appelle en, en français un oxymore, c'est-à-dire que c'est la juxtaposition de deux mots qui ont des sens totalement différents. La nature, c'est naturel, donc ça ne se gère pas. Hein. Et pourtant, pour limiter l'érosion de la biodiversité, on a créé, bien sûr, des parcs, des réserves, des plantes, des espèces protégées, etc. Tout ça revient à une certaine culture, on va dire, judéo-chrétienne chez nous, puisque vous savez que dans la Bible, Dieu confia le jardin d'Éden à l'homme pour qu'il le garde et le cultive. C'est la Genèse, livre 2, verset 15. Au XVIIe siècle, on est passé à une philosophie plus rousseauiste. Hein, il y avait l'homme et la nature. Et aujourd'hui, on arrive à un concept de l'homme dans la nature pour le meilleur et pour le pire. Alors, je vous ai montré du pire et je vous ai montré aussi du meilleur, puisque l'homme n'est pas que destructeur, il est aussi créateur de biodiversité. Si vous avez un devoir de philo au bac là-dessus, vous pourrez utiliser ces exemples. Alors, il y a une formule qui va être ma conclusion et que j'aime tout particulièrement, pas parce que je viens de Lyon, mais parce qu'elle me plaît beaucoup. Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. C'est une citation qui serait de Saint-Exupéry, mais je n'ai pas trouvé l'ouvrage dans lequel il avait publié ça. Merci de votre attention.
C'était Christian Dumas, biologiste et botaniste, membre de l'Académie des sciences. Il s'exprimait face à un public de lycéens sur la notion de biodiversité, une communication qui se déroulait dans le cadre de la Fête de la Science 2010 à l'Institut de France. Restez à l'écoute de nos émissions et téléchargez « La fleur de la naissance à la reproduction », toujours en compagnie de Christian Dumas. Et puis pour poursuivre sur le maillage complexe des écosystèmes, nous vous invitons à écouter l'émission « Vers une biodiversité artificielle, l'homme peut-il vivre en symbiose avec les autres espèces ?» en compagnie cette fois-ci de Denis Couvet, correspondant à l'Académie d'agriculture et professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.